Bien, nous allons reprendre donc notre, ou poursuivre notre étude d'histoire d'Église et voir toujours la marche vers la révocation de l'édit de Nantes. Nous étions arrêtés la dernière fois dans la dernière partie du règne de Louis XIII. Après la destruction de La Rochelle, la prise de La Rochelle, donc la fin de l'autonomie huguenote à l'intérieur du royaume de France, cette tâche effectuée, bien évidemment, il est évident que la révocation venait de subir un coup sérieux. Néanmoins, au lendemain de la prise de La Rochelle, Richelieu maintient l'édit de Nantes dans un but, je dirais, plus politique que religieux ou de tolérance, parce que Richelieu est un homme qui a suffisamment de finesse politique pour se rendre compte que les Huguenots occupent dans la société française une place importante sur le plan économique et que les pousser à bout serait les pousser à l'émigration et serait porter un coup sensible à l'économie française. Ce que Louis XIV n'aura pas la finesse de voir. Et effectivement, c'est exactement ce qui se passera. L'expulsion des Huguenots entraînera un effondrement de l'économie française et par conséquent la grandeur française en soi. Néanmoins, la fin du règne de Louis XIII, après la destruction de La Rochelle, la prise de La Rochelle, est une succession d'entorses de plus en plus flagrantes à l'édit de Nantes et un réveil de l'esprit des ligueurs, n'est-ce pas, qui avait précédé justement le même édit de Nantes. Et c'est ainsi, par exemple, que les Huguenots vont se trouver un peu dans la situation des chrétiens, par exemple, des pays arabes. Il va y avoir, par exemple, l'expulsion des Huguenots d'un certain nombre de professions. Le fait d'être protestant est une situation qui fait qu'on ne peut pas occuper un certain nombre de postes. D'autre part, ça et là, n'est-ce pas, au gré à la fantaisie de seigneurs locaux, des entorses plus ou moins grandes vont être aussi mises à l'édit de Nantes, entre parenthèses, ce qui montre l'importance justement des autorités locales. Ce n'est pas indifférent d'avoir quelqu'un qui est favorable ou quelqu'un qui est hostile, même en fonction des lois, parce qu'on peut appliquer les lois d'une manière restrictive ou au contraire d'une manière beaucoup plus large. C'est ainsi, par exemple, que les réformés de Coué, qui était un haut lieu du protestantisme poitevin, un beau jour, sont avisés qu'ils ne peuvent plus avoir ni collège ni école, du jour au lendemain, comme ça. Et c'est aussi à cette époque-là que se crée un mouvement qui est promis à un avenir important pendant le règne de Louis XIV, qui est alors un mouvement extrêmement dangereux, qu'on appelle la cabale des dévots. La cabale des dévots, c'est un petit peu, si vous voulez, une espèce de prolongement de la Ligue, et qui est une société secrète, ou plus ou moins secrète, au départ secrète en tout cas, et dont le but avoué est justement la révocation des édits de Nantes, et puis la lutte contre l'hérésie. Les dévots, comme ils se nomment entre eux, n'est-ce pas, ont un certain nombre d'engagements, d'exercices spirituels, etc., choses semblables. Et alors, c'est cette cabale des dévots, en particulier, qui va être caricaturée par Molière, n'est-ce pas, qui pouvait les voir, qui ne pouvait pas les voir en peinture, dans la fameuse comédie Tartuffe. Tartuffe, exemple immortel, n'est-ce pas, immortalisé par Molière, de l'hypocrite religieux, et donné par Molière comme membre de la cabale des dévots. Et il est certain que finalement, la comédie de Molière sur Tartuffe va être un coup sensible porté à cette même cabale, un coup dont elle aura d'ailleurs énormément de mal à se remettre. N'est-ce pas ? Et alors, cette cabale des dévots entreprend donc aussi des missions pour ramener les protestants dans le bercail de la seule église véritable, l'église une apostolique et romaine, catholique et romaine, n'est-ce pas ? Et alors, ils vont employer donc toutes sortes de moyens de pression, offrant de l'argent en échange de conversion, par exemple. Il y a une caisse spéciale qui est créée, n'est-ce pas, pour les conversions des huguenots. Alors, on offre de l'argent en échange de... Et au bout d'un certain nombre d'années, obligé de constater que les résultats de cette caisse d'achat, n'est-ce pas, des âmes, ce business des âmes, sont plutôt maigres. Quelques pauvres diables se laissent convaincre de changer de religion contre espèces sonnantes et trébuchantes, mais il est évident que la plupart des huguenots, n'est-ce pas, rejettent avec mépris des procédés aussi bas. Et puis, il y a un deuxième procédé qui, lui, alors, est éminemment plus dangereux, c'est les enlèvements d'enfants. On commence, en effet, c'est l'époque où, bien avant la rééducation des Nantes, on commence à enlever des enfants. On considère, en effet, que des enfants qui sont dans un environnement comme ça, de fanatiques, ne peuvent avoir qu'une enfance extrêmement perturbée, et qu'il convient donc, en tant que représentant de l'autorité publique, de soustraire ces malheureux enfants à l'influence néfaste qui est la leur et la mettre, et les mettre dans une situation beaucoup plus favorable, n'est-ce pas ? Et alors, bon, c'est pas toujours facile de prouver ce genre de travers. Alors, petit à petit, on va évoluer vers une législation. Sur laquelle, justement, les dévots s'efforcent d'aborder les enfants le plus jeune possible, et ensuite, en leur offrant toutes sortes de choses, en les conditionnant, n'est-ce pas, les amener très jeunes, n'est-ce pas, à adopter la religion catholique. Et c'est ainsi qu'il est décrété que dès l'âge de 7 ans, un enfant peut se convertir au catholicisme. Vous voyez ce que ça veut dire, un enfant de 7 ans, n'est-ce pas, auquel on raconte toutes sortes d'histoires, n'est-ce pas, et qui, il suffit qu'il dise, eh bien, je me réunis. Hein, c'était la formule rituelle. Je me réunis, c'est-à-dire je me réunis à la Sainte Église catholique et romaine, et aussitôt il était ondoyé, comme on dit, ça veut dire qu'il était baptisé, parce qu'on ne considérait pas que le baptême, même baptême des enfants huguenots, était valide. Alors on l'ondoyait à toute vitesse. Il était baptisé catholique, et il était donc maintenant membre de l'Église catholique. Et donc, il devait être élevé dans la Sainte Église catholique, éduqué, catéchisé, etc. Et pour cela, bien entendu, il ne pouvait plus rester avec ses parents, qui eux étaient d'un avis contraire. Alors, on l'enlevait. On le mettait dans un couvent. Ce pauvre enfant, n'est-ce pas, qui alors très vite se rendait compte de l'imprudence qui avait été la sienne d'avoir ces paroles malheureuses, n'est-ce pas, je me réunis, ou toute autre parole du même ordre. Et Michelet, notamment, décrit avec beaucoup de sentiments humains, n'est-ce pas, le sort de ces enfants qui étaient arrachés à leurs parents du jour au lendemain et se retrouvaient dans des couvents battus, élevés par des gens qui, évidemment, n'avaient aucune affection pour eux et puis qui ne pouvaient pas avoir leurs parents. Et alors, on poussait le cynisme et le sadisme jusqu'à faire en sorte que les parents payent la pension de leurs enfants. Non seulement on leur enlevait leurs enfants, mais en plus encore de ça, il fallait qu'ils payent la pension de leurs enfants. Bien entendu, il n'était pas question de revoir les enfants. Et puis alors, chose extraordinaire, n'est-ce pas ? Bon, évidemment, souvent, ces enfants qui étaient enlevés à leurs parents, qui étaient endoctrinés, devenaient des catholiques fanatiques. Et bon, certains d'entre eux allaient jusqu'à vraiment renier leurs parents à fond. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que dans ce contexte-là, il y a eu des enfants, surtout quand ils étaient quand même un peu plus âgés, parce que ce n'était pas simplement les enfants de 7 ans qu'on ramassait, mais c'était en général quand même des enfants un peu plus âgés. Pas des enfants qui avaient, ou des adolescents, des adolescents qui avaient eu des paroles malheureuses, mais tout simplement, comme ça, je sais pas, on les raflait, c'est tout. Et certains tenaient ferme. Certains restaient absolument fidèles à ce qu'ils avaient reçu de leur père. Et notamment, en face alors de véritables persécutions pour les faire justement changer d'attitude, on n'hésitait pas à les battre, à les priver de nourriture, à les enfermer dans des cachots malodorants ou des choses comme ça. Et le martyr des enfants, n'est-ce pas, pendant l'époque qui a précédé la révocation des édits de Nantes et après la révocation des édits de Nantes, n'est-ce pas, est quelque chose d'absolument abominable. On cite notamment le fait de, n'est-ce pas, l'enlèvement de trois jeunes filles, 15 à 18 ans, tant que je me souvienne, qui avaient été enfermées dans un couvent, n'est-ce pas, et donc la mère supérieure les somme de changer d'abjurer, n'est-ce pas, et alors elle refuse. Il y avait là les soldats qui les avaient arrêtés, etc. Une fois, deux fois, refus poli, mais net, n'est-ce pas? Et la mère supérieure se jette sur ces jeunes filles, les dévait complètement devant les soldats, n'est-ce pas? Et commence à les battre. Entendez les cris, n'est-ce pas? Les cris étaient tellement affreux, n'est-ce pas? Qu'on les entendait jusque dans la rue avoisinante. C'était une chose qui se passait à Niort, n'est-ce pas? Voilà le genre de choses qui ont précédé donc la révocation de l'édit de Nantes. Donc, la cabale des dévots avait cette coutume, n'est-ce pas, d'enlever ainsi les enfants. Alors, on cherchait des querelles aux Huguenots pour un oui ou pour un non. Autre motif, par exemple, de chercher des noises, quand le Saint-Sacrement, n'est-ce pas, passait, car à côté de la cabale des dévots, il y a eu un autre mouvement qui s'est créé, c'était justement la Société du Saint-Sacrement. La Société du Saint-Sacrement, comme la cabale des dévots, avait pour but la révocation des édits de Nantes. Et il s'agissait ni plus ni moins, n'est-ce pas, que d'imposer par la force, si j'ose dire, le culte du Saint-Sacrement, c'est-à-dire de l'hostie consacrée par les protestants. L'hostie consacrée était promenée en grande pompe, d'ailleurs c'est le début de cette coutume, n'est-ce pas, au XVIIe siècle. Le culte du Saint-Sacrement prend un grand essor au XVIIe siècle, bien qu'il existait déjà un peu avant, mais pas dans les proportions qu'il a là. Alors, il y a des processions solennelles où on promène le Saint-Sacrement. Une petite parenthèse, nous étions en Espagne, Pierre-David a vu ça dans notre voyage, notre dernier voyage au Portugal. Nous étions dans une grande cathédrale d'Espagne, l'équivalent de Chartres ou de Notre-Dame. Et il y avait là, dans les dépendances, une espèce de cloître, n'est-ce pas, un superbe carrosse, hein, une espèce de d'engin sur roue, n'est-ce pas, mais en argent ciselé, mais une merveille, hein, merveille, argent massif. Alors, on s'est demandé que c'était cet engin-là, on a avisé un des gardiens qui était là, il dit, qu'est-ce que c'est que ça? Ben, il dit, ça, c'est pour le Saint-Sacrement. On promène le Saint-Sacrement là-dedans. Mais vous faites ça encore aujourd'hui? Oui, on fait ça encore aujourd'hui. C'est pas... Et alors, donc, quand le Saint-Sacrement passait, il fallait se découvrir religieusement. Les Huguenots, évidemment, qui avaient pour devise Soli Deo Gloria, à Dieu seul la gloire, n'allaient pas se découvrir demain un morceau de pain. Alors, il restait crânement debout, n'est-ce pas, le chapeau vissé sur la tête, quand le Saint-Sacrement passait. Alors, on leur tombait dessus, on les battait jusqu'à ce qu'on leur enlevait le chapeau de force, on les souffletait, etc. Quelquefois, on les rouait de coups, et parfois, on allait jusqu'à les jeter en prison pour ce crime abominable de ne pas s'être découvert devant le Saint-Sacrement. Autre motif également, quand il y avait des processions comme ça, il fallait décorer les maisons. Alors, bien entendu, les Huguenots décoraient pas leur maison. Ils avaient d'ailleurs compris qu'il valait mieux pas trop se trouver dehors quand le Saint-Sacrement passait. Et au bout d'un certain temps, plutôt que de faire de braver un petit peu les choses, ils rentraient discrètement chez eux où ils essayaient de se camoufler dans des petites encoignures de portes pour qu'on les repère pas trop, n'est-ce pas? Mais par contre, se soustraire à la décoration des maisons pour les jours de procession, c'était infiniment plus difficile. Et là, alors, les maisons on cassait les portes, on venait piller, on venait briser tout ce qu'il y avait dans la maison, battre les habitants, etc. Parce qu'ils n'avaient pas décoré leur maison pour la procession en question. Et alors, ces deux réalités, donc, étaient la cabale des dévots d'une part et la Société du Saint-Sacrement d'autre part, ont constitué, finalement, ce qu'ils reprochaient aux Huguenots d'être, c'est-à-dire un État dans l'État. Et Louis XIV, qui était pourtant pas un homme qui était suspect de sympathie vis-à-vis des réformés, a été quand même amené à intervenir au bout d'un temps contre ces deux mouvements, parce qu'effectivement, société secrète, il commençait à avoir une influence telle que, dans l'État français, ça a commencé à devenir extrêmement dangereux. Alors maintenant, à la fin du règne de Louis XIII, il y a un autre élément qui va durcir l'opposition aux protestants, ce sont les événements en Angleterre. L'Angleterre, en effet, à cette époque-là, s'est donné un roi catholique, le roi Charles. Et en Angleterre éclate, au bout d'un certain temps, une révolution parce que Charles veut rétablir, enfin il s'est donné un roi catholique, c'est-à-dire que par le jeu des successions, vous savez, des successions dynastiques, est arrivé en fin de compte sur le trône d'Angleterre un roi qui était catholique. Bon, ce roi ne veut pas reconnaître les privilèges de l'Église d'Angleterre. C'est une situation d'ailleurs très paradoxale puisque, d'après finalement la coutume anglaise, le roi et le chef de l'Église d'Angleterre. Et voilà ici que nous avons un roi catholique qui donc ne peut être véritablement le chef de l'Église d'Angleterre. Et Charles va faire tout son possible pour ramener l'Église d'Angleterre dans le catholicisme. Et alors, un conflit extrêmement aigu en découle, qui se termine par l'arrestation du roi, le renversement du roi et sa mise en accusation, qui se terminera par une condamnation à mort, et le roi Charles Ier est décapité publiquement sur une des grandes places de Londres. Bon. Gros émoi en Europe, n'est-ce pas ? Décollation d'un roi, vous voyez, il n'y a pas que les Français qui décapitent le roi, les Anglais avaient fait ça bien avant nous, seulement avec des conséquences quand même qui a été un petit peu moindre. Et alors En France en particulier, pays catholique, n'est-ce pas, fille aînée de l'Église, ce qui s'est passé en Angleterre provoque une véritable levée de bouclier contre ces gens sans foi ni loi, qui ne respectent même pas la personne d'un roi. Et au travers des protestants anglais, ce sont tous les protestants qui sont regardés de travers, suspectent de sentiments régicides, et précisément, c'est toujours un petit peu, si vous voulez, ce qui est sous-jacent dans toutes les querelles jusqu'à la Révolution française, c'est que les huguenots français ne sont pas des citoyens sûrs. Ce sont des suppôts de l'étranger. Ce sont des gens qui sont susceptibles de se révolter contre le roi. Or, justement, chose tout à fait paradoxale, c'est qu'il n'y a pas de sujet plus fidèle au roi que les huguenots français, qui précisément pour couper l'herbe sous les pieds de leurs calomniateurs font tout ce qui est en leur pouvoir pour montrer qu'ils sont au contraire des citoyens fidèles et des sujets fidèles du roi, et qu'ils l'encensent, ils prient pour lui, etc., etc., avec une certaine sincérité d'ailleurs, parce qu'il est écrit donc « prier pour les autorités », ils le font, ils mettent en pratique la parole de Dieu dans ce domaine-là. Mais néanmoins, à partir de la Révolution anglaise, les accusations de protestants régicides, n'est-ce pas, commencent à se manifester de plus en plus fortement. En décembre 1742, Richelieu meurt. Il est suivi un an plus tard par Louis XIII, 1643, mort de Louis XIII. Donc, c'est la femme de Louis XIII, Anne d'Autriche, qui assure la régence. Le jeune dauphin, le futur Louis XIV, est en effet encore trop jeune pour pouvoir exercer les responsabilités du pouvoir. Donc, c'est la reine qui l'exerce. La reine, qui est d'origine espagnole, extrêmement ancrée dans le catholicisme, va s'appuyer sur un ministre qui lui aussi est un clerc, c'est un homme d'église, le cardinal de Mazarin. Pardon, il est cardinal, mais il n'est pas clerc, justement. À cette époque-là, on pouvait être un laïc et être nommé cardinal. Richelieu était clerc et cardinal. Mazarin était un laïc, mais il était cardinal. Hein. C'est un Italien. C'est un homme, donc, d'une grande finesse politique. Et c'est un homme roué, comme peuvent l'être certains Italiens. Non pas que tous les Italiens soient comme ça, bien sûr. Et Mazarin, bien comme, en principe, cardinal et donc défenseur de l'Église romaine, va être plutôt favorable aux réformés. Pas tellement pour des raisons personnelles, mais plutôt parce qu'il recherche la paix, quoi, n'est-ce pas ? Et il cherche à apaiser les esprits. Et si vous voulez, l'autorité de Mazarin, on pourrait appeler ça entre guillemets le règne de Mazarin, va être une petite période de répit pour les réformés de France. Ce qui ne veut pas dire que ça est là, n'est-ce pas, selon le gré des potentats locaux, d'autres entorses à l'édit de Nantes n'ont pas lieu. Nous sommes en effet dans une période qui va se dégrader sur le plan politique en France et qui va aboutir à cette période de trouble qu'on appelle la Fronde, une espèce de guerre civile auquel les grands vont prendre part, qui sera une espèce de jeu tout en étant beaucoup plus profonde que ça, n'est-ce pas ? Donc une espèce de pagaille plus ou moins généralisée. Et on sait bien que les périodes d'anarchie, les périodes de pagaille sont en général propices à des vexations et des exactions à l'encontre des minorités, surtout lorsque elles ne sont pas tellement en cours, n'est-ce pas ? Et alors, les protestants, n'est-ce pas, dans cette période particulière de la Fronde, vont prendre parti pour le roi à 100%, n'est-ce pas, pour le pouvoir, pour les raisons que j'ai dit tout à l'heure, parce qu'ils veulent être loyalistes, n'est-ce pas, ils se défendent, n'est-ce pas, et dans les temps, par exemple, au moment de la Révolution anglaise, on entend tonner contre les pasteurs en chair, tonne contre ceux qui ont osé décapiter le roi à Londres, n'est-ce pas, pour montrer qu'ils n'ont rien à voir dans cette affaire-là et que ça ne reviendrait même pas à l'esprit en France de se révolter contre le roi, n'est-ce pas, et que si certains nobles, si certains grands se permettent de contester le pouvoir, n'est-ce pas, eh bien, à eux, c'est quelque chose qui est hors de leur pensée. Néanmoins, eh bien, à tort ou à raison, n'est-ce pas, on ne veut pas le savoir. Au milieu catholique, on ne veut pas le savoir. N'est-ce pas, on fait comme si. Et donc, ça et là, il y a des destructions de temples. C'est en effet le début de cette évolution qui amènera la destruction de temples. Ou alors aussi d'autres choses, des exhumations de cadavres. Les cadavres des protestants sont exhumés, jetés aux immondices, parfois même promenés, n'est-ce pas, dans les rues des villes. Enfin, vous voyez ce que ça peut donner comme spectacle. Et puis, donc, des fermetures d'écoles, comme par exemple le 31 août 1647, l'école protestante de Coué est fermée. Et l'évêque de Poitiers contraint le seigneur de Coué, qui est protestant, de reconstruire à ses frais l'église catholique. N'est-ce pas ? Voilà, par exemple, typique, n'est-ce pas, d'une vexation qu'on trouve à cette époque-là. Et comme si ça ne suffisait pas, n'est-ce pas, les dévots demandent contre les réformés des mesures de plus en plus énergiques. Mazarin essaie de tempérer les choses. Et il va un petit peu évoluer dans la deuxième partie de la période de la Fronde pour une raison qui est tout à fait inattendue. C'est que le jeune dauphin, futur Louis XIV, tombe amoureux d'une princesse charentaise, n'est-ce pas, originaire de Brouage, qui s'appelle Marie Mancini. Bon, c'est une noble, et a priori, il n'y aurait absolument aucune raison que le roi ne l'épouse pas, mais il y a un problème énorme, c'est que Marie de Mancini est protestante. Alors, le futur roi, n'est-ce pas, qui tombe amoureux d'une protestante, alors ça, c'est impossible. Alors là, Mazarin comprend qu'il faut qu'il réagisse, n'est-ce pas, et il va tout faire pour casser en quelque sorte cet amour et pour empêcher ce mariage. Tout est bon, n'est-ce pas, des pressions, éloigner la jeune fille, etc. Il parviendra bien entendu à ses fins. Et puis alors, en même temps, n'est-ce pas, pour ça, il décrit forcément le protestantisme aux yeux du jeune dauphin. Et on peut se demander si la haine qui va naître dans le cœur de Louis XIV à l'encontre des réformés, n'est-ce pas, n'est pas aussi une conséquence plus ou moins lointaine de cette période, n'est-ce pas ? C'est quand même assez cocasse d'imaginer que cet homme qui devait réformer l'édit de Nantes quelque temps plus tard, enfin, il épousait une protestante, s'il l'avait fait, peut-être que, enfin, même sans doute, le sort des protestants français aurait été totalement changé. Hein. Elle aurait pu être la reine Esther des protestants. Malheureusement, n'est-ce pas, Mazarin a empêché ce mariage. Et faisant le malheur de Louis XIV d'ailleurs, hein, Louis XIV ne se remettra jamais de cette affaire-là. On lui fera épouser de force beaucoup plus tard une princesse espagnole pour des raisons politiques, n'est-ce pas, qui l'aide comme le péché, n'est-ce pas, la pauvre infante Marie-Thérèse, c'est une brave fille, mais alors vraiment, elle a rien pour plaire, hein, et le roi ne l'aime pas forcément, hein. Son cœur est resté attaché à Marie de Mancini. Et bah, il l'épouse parce que c'est comme ça. En tant que roi, on ne lui demande pas son avis. En l'épousant, il s'assure des droits sur le royaume d'Espagne par le jeu des successions éventuelles, n'est-ce pas? Et effectivement, une dynastie française va ensuite régner sur le trône de l'Espagne comme conséquence de ce mariage. Donc, pour Mazarin, c'est un coup de maître. C'est un coup de maître d'avoir manigancé ce mariage-là. Mais alors, il a brisé la vie de Louis XIV. Alors, Louis XIV va passer sa vie, n'est-ce pas, d'une maîtresse à une autre. N'est-ce pas, toute sa vie sera une vie de débauche, n'est-ce pas, la plus noire possible. Il aura des bâtards alors à l'appel, n'est-ce pas, très, très, très nombreux avec l'une, avec l'autre, jusqu'à ce que finalement, chose aussi tout à fait étrange, étonnante, n'est-ce pas, ils finissent par épouser une veuve, Madame de Maintenon, qui était une femme extrêmement fanatique, catholique, alors là, jusqu'au bout des ongles, et qui l'a poussée à la persécution et à la révocation des édits de Nantes, mais qui, chose extraordinaire, était la petite fille de d'Agrippa d'Aubigné, un des grands protestants du siècle précédent. Alors là, on assiste à des choses vraiment paradoxales. Cette femme, n'est-ce pas, qui avait comme ancêtre un grand, grand homme de la Réforme, n'est-ce pas, qui va devenir une des adversaires les plus acharnés de la Réforme, qui se retrouvera épouse du roi, après avoir été sa maîtresse d'ailleurs, pendant tout un temps. Mais enfin, Louis XIV, à cette époque-là, est vieillissant. Bon, il a plus tellement le goût à des aventures diverses. Son confesseur, le père Lachaise, parvient d'ailleurs à le persuader de se ranger un petit peu. Et puis, Madame de Maintenon, qui n'est plus de prime jeunesse non plus, à cette époque-là, n'est-ce pas, finit par le convaincre de l'épouser. Alors, en grand secret d'ailleurs, il l'épouse en grand secret. Et puis, alors que sa passion jusqu'alors, c'était les femmes, toute sa vie, Louis XIV avait vécu comme un débauché de la pire espèce, eh bien, maintenant, il va se reporter sur la bonne chair. Alors, il faisait des repas à la fin de sa vie, mais quelque chose d'inouï, n'est-ce pas. Il engloutissait alors là des repas pantagruéliques, n'est-ce pas, se détraquant la santé d'ailleurs par ce moyen-là. Et alors, quand il avait trop mangé, ben, ses médecins le saignaient. Et c'est pareil que pour... Alors, quand on le saignait, on lui tirait 1 demi-litre de sang, ou je sais pas, enfin... Et puis, il recommençait, il retournait à table, et puis il recommençait à s'empiffrer jusqu'à ce qu'il n'en puisse plus, quoi. C'était sa vie, c'était comme ça. Il a vécu jusqu'à la fin de ses jours. Enfin, triste vie, n'est-ce pas, que ce pauvre homme, n'est-ce pas, qui se disait le roi soleil, et qui a été vraiment un homme extrêmement méprisable sur le plan humain, enfin, de compte, n'est-ce pas, même si ce fut un grand homme d'État et un grand homme tout court sur le plan de ce que les hommes appellent un grand homme, un sens politique certainement très grand, mais qui sur le plan humain était vraiment méprisable dans sa conduite. Bon, M. Mazarin a-t-il une part dans cette évolution du futur roi? Est-ce que aussi évidemment l'influence corruptrice du milieu dans lequel il évoluait n'a pas joué? Tout ça certainement ensemble pour forger cette personnalité vraiment peu sympathique de cet homme que l'on appelait le roi soleil. Donc, oui, à cette époque-là également, donc éclate la Fronde. Alors là, nous revenons un petit peu en arrière. Là, nous avons vu un petit peu très rapidement le personnage de Louis XIV. La Fronde, c'est une contestation, si vous voulez, qui éclate des raisons assez vagues, n'est-ce pas, parce que le roi est jeune, parce qu'il n'a pas encore pris les choses en main d'autorité, parce que Mazarin est contesté, c'est un Italien, il a une politique florentine très très difficile à suivre, et un certain nombre de grands, n'est-ce pas, rêvent d'exercer un pouvoir plus grand, de le supplanter, etc. Et puis, vous avez là-dedans des gens qui viennent un petit peu pour une espèce de jeu, n'est-ce pas? Par exemple, Mademoiselle de Montpensier, n'est-ce pas, qu'on appelle la Grande Mademoiselle, parce qu'elle est d'une taille assez respectable, qui est une vieille fille qui n'a pas non plus beaucoup de prétendants, parce qu'elle a un physique qui la dessert considérablement, et qui trouve donc une exutoire assez déconvenue, n'est-ce pas, dans justement, elle prend la tête de complots, d'armées, de choses semblables. Elle tient salon, c'est très prisé à cette époque-là, n'est-ce pas? On se pique de belles lettres, on se pique d'esprit, de poésie, de choses semblables, de musique. Alors, tout ça sur fond de mousqueterie, n'est-ce pas? De sable de mousqueterie, d'espèces de petites escarmouches, de petits complots. C'est à la fois un jeu, c'est tout un contexte, n'est-ce pas, qui va durer un certain nombre d'années, jusqu'à ce que le roi, en 1662, prennent les choses en main d'une manière directe. En fait, on peut dire que bien avant la révocation de l'édit de Nantes, il y avait une évolution qui allait dans le sens justement de la révocation de cet édit. Maintenant, comme nous l'avons vu la dernière fois, les protestants étaient conscients, ils pensaient que leur religion était la seule biblique, et ils étaient aussi persuadés, c'est dans une naïveté absolument incroyable, que l'édit de Nantes était inviolable et que par conséquent, ils n'avaient strictement rien à craindre. Et que finalement, les entorses dont ils étaient les victimes par rapport à cet édit de Nantes n'étaient que des entorses passagères et qu'il suffisait de faire le gros dos, d'adopter un profil bas et que finalement, les choses allaient rentrer dans l'ordre. Mazarin, donc, quand le roi tombe amoureux de... le dauphin, plutôt, tombe amoureux de Marie Mancini, commence par faire interdire les synodes nationaux en tout cas. Hein. Il a compris que là, on pouvait se retrouver dans une situation où, par l'intermédiaire justement de grands, eh bien, le protestantisme pouvait redevenir un parti qui pouvait avoir sur le plan politique pesé sur les affaires de la France. Et la pensée politique, autant que juridique et religieuse de l'époque, voyez dans le protestantisme des diviseurs de l'État, un État dans l'État, ce qu'il n'était pas. Ça aurait été beaucoup plus vrai, comme nous l'avons vu tout à l'heure, de la cabale des dévots, ou bien de la compagnie du Saint-Sacrement, mais c'était ainsi. On les voyait comme ça, n'est-ce pas, il n'y avait rien à faire. Louis XIV était un roi qui ne rêvait que d'une chose, c'était l'absolutisme royal. La fronde, justement, l'avait amené à cette conclusion que la seule solution à l'anarchie était justement l'absolutisme royal. Et il y avait une chose dont Louis XIV avait une peur bleue, et qui était pour lui l'incarnation de tous les maux de la société possible et imaginable, c'était la République. Et alors, Louis XIV voyait dans le protestantisme des suppôts de la République. Les protestants étaient pour lui des suppôts de la République. C'est ce qu'il voyait, par exemple, dans les provinces unies qui seront parmi ses principaux adversaires pendant cette période-là. C'est ce qu'il voyait des pays, n'est-ce pas, plutôt dans une évolution qui se faisait jour de cette manière-là, dans les lointaines provinces américaines où il y avait une espèce de république de fait qui se crée, puisque l'Angleterre était loin, que la couronne anglaise avait du mal à faire entendre son autorité dans ces provinces-là, hein, dans ces colonies si éloignées. Et Louis XIV redoutait la République vraiment comme la peste. Et alors, on commence à voir à cette période-là le protestantisme être traité de secte hérétique. C'est intéressant ce mot de secte, qui avait déjà à ce moment-là une connotation persécutrice, connotation qu'il a gardée jusqu'à nos jours. Et c'est ainsi, par exemple, que parmi les vexations nombreuses dont nous avons parlé à l'encontre des protestants, il y avait le fait de leur interdire de chanter les psaumes, parce que ça offensait les oreilles des catholiques, n'est-ce pas ? Alors, ils n'avaient pas le droit de chanter les psaumes. Par exemple, je sais pas moi, un charretier qui conduisait ses bêtes et qui passait dans la ville, n'est-ce pas, n'avait pas le droit de fredonner des psaumes, de chanter des psaumes, pouvait avoir une amende si on prenait à chanter un psaume. Un paysan qui était en train de labourer son champ, qui tout en labourant son champ était en train de chanter des psaumes, si était seul dans la nature et qu'avec les oiseaux pour l'entendre, ça allait bien. Si malheureusement passait par là un catholique qui se plaignait, qui portait plainte, n'est-ce pas, j'ai entendu ce bonhomme-là chanter un psaume, il pouvait avoir une amende. Ça vous montre jusqu'où on était allé dans la mesquinerie. Alors, on a vu ces histoires de temples détruits, et c'est ainsi que le dernier synode qui a lieu sous le régime de l'édit de Nantes a lieu le 1er novembre 1659. Et c'est 3 ans plus tard, donc, que Louis XIV va finalement prendre le pouvoir et régner tout seul. Maintenant, en 1660, donc 2 ans avant que Louis XIV n'arrive au pouvoir, il y a une restauration en Angleterre qui fait que finalement la période révolutionnaire prend fin. C'est peu après que Mazarin meurt, et il y a encore à cette époque-là plus de 900 lieux de culte en France, 900 lieux de culte protestants. Donc 4 académies pour former les pasteurs. Nous avons vu donc Saumur étant la principale, Montauban, Sedan et Die. Maintenant, tous les pasteurs ne sont pas formés dans ces académies-là. Il y a une méthode aussi de formation des pasteurs qui est donc formation auprès d'un pasteur ancien. Et alors, n'est-ce pas, on parle aussi à cette époque-là d'une véritable internationale calviniste. C'est intéressant d'ailleurs qu'on parlera d'internationale socialiste, communiste, n'est-ce pas, mais dès le siècle de Louis XIV, on parle d'une internationale calviniste. Alors, il y a par exemple des grandes églises, certaines qui occupent jusqu'à 5 pasteurs, qui emploient jusqu'à 5 pasteurs, telles par exemple la paroisse de Charenton, qui est la principale paroisse de la région parisienne, avec une assez grande diversité des communautés huguenotes. Et alors, il y a bien entendu à cette époque-là, il n'est pas du tout question que les ministres du culte soient rémunérés par l'État, ce qui est le cas des catholiques, puisque la religion catholique est religion d'État. Mais les communautés huguenotes sont obligées de s'autofinancer. Alors, bien entendu, il y a des paroisses riches et des paroisses pauvres. Et alors, il y a un système qui est mis en place, n'est-ce pas, pour que les paroisses riches aident les paroisses pauvres, un système de régulation pour que le superflu des uns pourvoie au nécessaire des autres. Maintenant, bien que la Bible soit en principe la base du protestantisme, il y a chez le protestant moyen pas mal d'illettrés, hein, notamment chez le petit peuple et encore plus chez les femmes. Beaucoup de femmes sont totalement illettrées. Et même chez ceux qui savent lire, tout le monde n'a pas une Bible ou même un Nouveau Testament. C'est quand même un article cher, même si l'imprimerie a rendu beaucoup plus abordable, n'est-ce pas, le fait de posséder des livres, mais la Bible, c'est quand même un gros livre, et l'imprimer à cette époque-là, c'est encore un travail important, et par conséquent, ça coûte une somme d'argent assez importante. Tout le monde n'est pas capable de s'offrir, n'est-ce pas, ce livre-là. D'autre part, il y a un autre frein qui s'oppose à la diffusion de la culture biblique en milieu protestant, c'est l'existence de dialectes locaux. Si le français, n'est-ce pas, le français est la langue officielle du pays, et Louis XIV fera tout ce qui est en son possible pour répandre la langue française, il n'en demeure pas moins vrai que de nombreuses provinces de France gardent le dialecte. Bien entendu, la Bretagne n'étant pas le dernier dans ce domaine-là, mais pas seulement la Bretagne, il y a donc l'Occitanie qui a ses dialectes propres, catalan ou choses semblables, il y a Le Nord, les Flandres qui ont aussi leur patois, le Poitou a un patois aussi très particulier, etc. Alors, ce qui fait que les gens quand même parlent plus ces langues-là. Bien entendu, le prêche se fait en français, en bon français, châtier, et d'ailleurs, les pasteurs mettent leur point d'honneur à parler dans un français parfait. Tout le monde n'est pas capable de suivre encore, n'est-ce pas, les prédications en français de ce type-là, surtout que on est quand même à cette époque-là dans une période qui, sur le plan spirituel, n'est pas la période la plus spirituelle du protestantisme français. Il y a un certain tassement, il y a un certain assoupissement, même au niveau des pasteurs, n'est-ce pas, qui aussi ont tendance à s'inquiéter bien plus des choses de ce monde, n'est-ce pas, plutôt que de l'œuvre du royaume de Dieu. Et par exemple, le nombre de pasteurs émaille leurs prédications de vers qu'ils composent eux-mêmes ou qu'ils empruntent à tel et tel poète en vogue, n'est-ce pas? Et ce sont des espèces, certaines prédications, quand on les lit, n'est-ce pas, les prédications de l'époque sont des véritables essais littéraires, beaucoup plus qu'une prédication qui interpelle le peuple, sans parler de ce qu'on disait la dernière fois, à savoir que l'essentiel des thèmes de la prédication est polémique, n'est-ce pas? C'est une démolition en règle du catholicisme. On apprend aux protestants à polémiquer contre le catholicisme, beaucoup plus qu'à s'édifier lui-même. Alors tout ceci fait que finalement il y a une certaine dilution de la substance du protestantisme français à cette période-là, disons les choses pour parler en langage public, un certain assoupissement spirituel du protestantisme à cette période-là. Le pasteur, n'est-ce pas, le statut de pasteur, c'est essentiellement celui d'un lettré, n'est-ce pas, celui qui sait. C'est quelqu'un qui a une science théologique et qui est là pour enseigner des gens qui ne savent pas. Et alors, c'est finalement la seule chose qui différencie le pasteur du laïc, c'est que donc il a un ministère d'enseignant. Finalement, la réforme ayant aboli la vision des ministères, et notamment de toute hiérarchie, pour mettre en avant le dogme du sacerdoce universel, comme je l'ai dit à Carré, confondant d'ailleurs le sacerdoce et le ministère, c'est pas du tout la même chose. Le sacerdoce, quand on lit les textes bibliques, n'est-ce pas, il y a deux textes en fin de compte pour établir le sacerdoce universel. C'est le texte de Pierre, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. Bon, on trouve un texte semblable chez Paul dans les Éphésiens, je crois. Et en dehors de ça, il n'est pas du tout question, n'est-ce pas, de sacerdoce. Et alors, il est bien évident, quand on lit ces textes-là, que Paul ici parle d'un sacerdoce collectif, n'est-ce pas, reprenant d'ailleurs ce qui est écrit dans Exode, quand il est dit que Moïse, quand il descend de la montagne, dit au peuple d'Israël, si vous écoutez les commandements que je prescris aujourd'hui, vous serez pour moi une nation sainte et un peuple de prêtres. Donc, Israël est un peuple de prêtres. Un peuple de prêtres, c'est-à-dire pour qui ? Eh bien, un peuple de prêtres pour le monde. Il est en quelque sorte celui qui, le peuple qui exerce une fonction sacerdotale pour les autres nations. En ce que précisément, il est le dépositaire de la révélation de Dieu, et il est appelé, comme dira le prophète Isaïe, à être la lumière des nations. L'Église, qui se situe dans la ligne d'Israël, Pierre fait manifestement un parallèle. Vous êtes une nation sainte, un sacerdoce royal. Il reprend ce qui a été dit à Israël. Donc, Israël, qui maintenant est en quelque sorte court-circuité par son faux pas, comme dira l'apôtre Paul, et qui n'est donc plus à même de remplir sa mission devant Dieu, eh bien, se voit remplacé par l'Église dans ce rôle de peuple sacerdotal pour le monde entier, en ce que précisément l'Église prie pour le monde. L'Église annonce au monde le salut, donc automatiquement, elle exerce cette fonction sacerdotale. C'est vrai qu'il y a un sacerdoce universel dans ce domaine-là, mais collectif. Et le fait qu'Israël était un peuple collectivement prêtre pour les autres nations n'empêchait pas qu'en son sein, il y avait des prêtres, qui alors avaient une fonction pour Israël essentiellement. Dans la Nouvelle Alliance, comme nous le voyons dans l'Épître aux Hébreux, il n'y a plus de prêtres. En dehors de ce sacerdoce universel pour le monde, il n'y a plus de prêtres. Il n'y en a plus qu'un, celui du Christ, qui est universel et qui n'est pas transmissible. Tu es prêtre pour toujours selon l'ordre de Melchizedek. Mais par contre, il y a les ministères. Et le ministère n'a rien à voir avec la fonction de prêtre. C'est quelque chose de tout à fait différent. Le ministère, c'est le service. Et la réforme abolit ça. C'est pas, tombant dans l'autre extrême, eh bien, elle dit maintenant, donc, plus de ministère. Par contre, comme il y a des illettrés, comme il y a des ignorants, comme il y a des gens qui ne savent pas lire, comme il y a des gens qui sont incapables d'étudier ou parce qu'ils n'ont pas la Bible, parce qu'ils n'ont pas ces moyens de la procurer, etc., il faut une fonction d'enseignant. Mais qui est à peine un ministère, qui est juste une fonction d'enseignant. Et alors, qui se justifie, si vous voulez, à l'époque du XVIIe siècle, par exemple, une époque où encore il y a effectivement beaucoup d'ignorance, beaucoup d'illettrisme, mais qui, dans notre époque, au XXe siècle, où tout le monde, pratiquement, a accès aux études, tout le monde peut lire la Bible dans différentes versions, tout le monde peut étudier des bouquins de théologie, etc., eh bien, la limite, aujourd'hui, ne se justifie plus. Dans la perspective réformée, dans la perspective protestante. Et alors, le pasteur qui était donc en quelque sorte le lettré, l'érudit, n'est-ce pas, qui d'ailleurs cultivait avec soin, n'est-ce pas, cet aspect de sa personnalité, donc souvent, n'est-ce pas, moins ses oies comprenaient ce qu'il racontait, plus il était auréolé de prestige, d'où justement le fait qu'il émaillait ses prédications de poésie ou de choses semblables, n'est-ce pas, pour impressionner son monde, ce qui montre le degré de spiritualité dans lequel ils étaient tombés, ou plutôt de manque de spiritualité dans lequel ils étaient tombés, et les uns les autres d'ailleurs, et les pasteurs et les fidèles. Hein. Alors il y avait, n'est-ce pas, cet aspect, c'est pas, le pasteur était le lettré. Il avait en général une bibliothèque personnelle qui lui permettait justement d'impressionner son monde. Et puis c'était un notable à qui était respecté pour cette raison même. Et puis alors, il y a maintenant. Extrêmement dommageable dans le protestantisme du XVIIe siècle. C'est que le salut par la foi, qui est donc la base de la réforme, et qui, bien entendu, comme nous l'avons vu, est profondément biblique, se détériore, se dégrade. Croire, ça n'est plus l'engagement personnel de la vie, mais c'est, si vous voulez, avoir une doctrine correcte, une croyance correcte. La foi dégénère en croyance, c'est-à-dire la pure doctrine protestante, d'où justement l'apologétique des pasteurs à cette époque-là, c'est pas, il s'agit d'enseigner une espèce de polémique anti-catholique et de développer chez le protestant de base l'orgueil naïf face au catholicisme, n'est-ce pas, d'être ceux qui ont la pure doctrine, la pure vérité. Et alors, n'est-ce pas, il y a une espèce de complexe de supériorité des protestants qui naît à cette période-là, qui n'est pas d'ailleurs sans exaspérer, bien entendu, le catholicisme. Et il est vrai, si vous voulez, qu'à niveau social égal, le protestant moyen est plus évolué, si vous voulez, que le catholique, qui en prend ombrage et qui se considère un petit peu écrasé, n'est-ce pas, par le savoir du protestant et puis deuxièmement son orgueil, hein, qui lui fait sentir combien lui, catholique, obscurantiste, n'est-ce pas, il est minable à côté du protestant éclairé, n'est-ce pas, qui a la connaissance de la vérité que le catholique n'a pas. Et bon, sans vouloir justifier le catholicisme, loin de là, il faut bien reconnaître que cette attitude manquant de sagesse, manquant d'équilibre de la part des protestants et des pasteurs qui ont développé ça, n'est-ce pas, ne sera pas sans incidence pour la persécution justement du protestantisme qui en découlera. Bien sûr, il faut bien dire que la persécution aurait eu lieu sans ça. Si les protestants avaient été ceux qu'ils auraient dû être, c'est-à-dire vraiment humbles, convaincus dans la vérité, mais avec humilité et sagesse, la persécution aurait eu lieu quand même. Hein. Les Nantes auraient été révoquées quand même. Mais enfin, il faut reconnaître que cet aspect-là des choses n'a pas aidé. Par exemple, c'est très intéressant de voir la devise de la ville de Genève, qui est l'expression typique de cette mentalité, n'est-ce pas ? Post tenebra lux, c'est-à-dire après les ténèbres, la lumière. Hein, c'est-à-dire que toute la période du Moyen-Âge catholique et jusqu'à cette époque a été une période de ténèbres épouvantables, et avec Luther et Calvin, n'est-ce pas, la lumière a brillé dans les ténèbres, et donc la lumière de la vérité, n'est-ce pas, illumine maintenant les ténèbres de l'obscurantisme, le catholicisme étant assimilé à l'obscurantisme le plus total. Alors, on considère également que l'édit de Nantes est un don de Dieu, et par conséquent qu'il n'y a aucune raison, n'est-ce pas, qu'il soit, absolument aucune, qu'il soit révoqué. Par exemple, il y a aussi souvent des réunions contradictoires avec les prêtres catholiques. Des espèces de disputations, si vous voulez, où le pasteur n'hésite pas à jeter un défi aux prêtres du coin. Et puis alors, n'est-ce pas, dans un local neutre, n'est-ce pas, où on se met d'accord, dans une espèce de salle de café, n'importe quoi. Et bien, on vient polémiquer, puis tout le monde là et là, n'est-ce pas. Alors, au début, les protestants, bien entendu, les pasteurs ont en général assez facilement le dessus, parce que l'ignorance du clergé catholique en matière de Bible est souvent telle que les pasteurs triomphent sans beaucoup de mal, aux grandes dames des catholiques et à la grande joie des protestants qui viennent applaudir leur pasteur dans ses joutes oratoires. Mais très vite, les catholiques se ressaisissent, parce que c'est quand même très mauvais pour leur prestige. Éventuellement, ça peut ébranler un certain nombre de catholiques, non pas en les convaincre à passer au protestantisme. Il y a peu de conversions suite à ce genre de polémique assez peu spirituelle, il faut bien le reconnaître. Mais ça peut ébranler, n'est-ce pas, la confiance que les catholiques de base peuvent avoir dans leurs prêtres, parce que on n'hésite pas, n'est-ce pas, à envoyer des coups en dessous de la ceinture, et par exemple à attaquer les prêtres personnellement, dans leur vie personnelle, qui n'est d'ailleurs pas sans reproche. Souvent, n'est-ce pas, ce sont des choses fondées, et c'est ainsi que sont révélés des scandales moraux, n'est-ce pas, dans ce genre de réunion du prêtre du coin, n'est-ce pas, au grand scandale de tous les fidèles qui sont là. Et alors, ce genre de polémique va être extrêmement stérile d'un côté comme de l'autre, parce que il va développer au sein du peuple français l'incroyance. L'incroyance qui va se développer au siècle suivant, n'est-ce pas, au XVIIIe siècle. Finalement, en entendant les uns les autres se traiter comme ça de gens pervertis et choses semblables, ceux qui assistent à ce genre de réunion, se disent finalement, il va pas mieux les uns que les autres. Vous voyez la réaction qui peut découler de ce genre de choses. Et alors, ensuite, les catholiques vont réagir, parce qu'ils se rendent bien compte qu'ils sont en train de perdre un peu leur influence. Et notamment, en général, ils vont tendre aux réformés des pièges. Des pièges par lesquels, soit parce que ils vont faire venir des gens qui sont plus qualifiés qu'eux, n'est-ce pas, qui ont préparé avec soin leur affaire, et puis soudain le pasteur va se trouver devant des difficultés qu'il n'avait pas prévues, parce que le pasteur de base a une connaissance de la Bible qui est quand même qui n'est pas négligeable, mais qui face à des jésuites ou des gens qui sont rompus aux joutes oratoires lui permet pas toujours de faire le poids. Et alors au bout d'un temps, les réformés ne rechercheront plus ce genre de confrontation où ils se trouvent souvent aux prises avec des difficultés qu'ils n'avaient pas imaginées. Alors, parmi ceux qui interviennent dans ce genre de choses, il y a les jésuites, nous avons vu, les capucins également, et parfois même des membres du haut clergé qui délèguent des gens qui sont particulièrement formés pour ce genre de joute, et qui, eux, ont considéré que l'édit de Nantes était un moindre mal pendant un temps. Donc c'était quelque chose qui était éminemment transitoire. Notamment pour le Midi catholique, qui était très atteint par la réforme, et l'existence de l'édit de Nantes jouait cette fois-ci dans le Midi au bénéfice des catholiques. Puisque, bien entendu, les protestants étant majoritaires et ayant eu une attitude intolérante vis-à-vis du catholicisme, grâce à l'édit de Nantes, le catholicisme pouvait se refaire. On a vu le cas du Béarn, par exemple, la dernière fois, d'où le catholicisme avait été absolument exclu, et qui, comme suite à l'édit de Nantes, refait son entrée en force au Béarn, c'est-à-dire que les églises qui ont été confisquées, les monastères, les couvents, toutes ces choses-là, n'est-ce pas, sont rendues au catholicisme qui peut ainsi se réimplanter dans cette région-là. Par conséquent, le catholicisme trouve aussi un certain intérêt à l'édit de Nantes dans les régions où il était minoritaire en France, ou en tout cas où il était malmené. Maintenant, ce que le clergé n'acceptait pas, c'était le caractère perpétuel de l'édit. Pour eux, c'était tout simplement une trêve en attendant des jours meilleurs. Et les jésuites en particulier vont agir notamment en direction des élites protestantes. Alors les élites protestantes vont être un peu plus sensibles que les autres, parce que au-delà des arguments proprement religieux, théologiques, n'est-ce pas, il y a d'autres arguments qui vont les toucher un petit peu plus, n'est-ce pas? C'est des perspectives, par exemple, d'avoir des postes, des titres, un avancement, etc. C'est la grande période, n'est-ce pas, où la cour royale est en train de se mettre en place. Et alors, c'est une espèce de rivalité. On aboutira, n'est-ce pas, à cette espèce de scène grotesque qui a été évoquée par Saint-Simon. Vous savez, quand le roi avait réussi à tellement mettre les nobles à sa botte, n'est-ce pas, qu'il y avait le petit lever du roi. Alors, c'était, n'est-ce pas, quand le roi, tout le monde des grands venait assister au lever du roi, n'est-ce pas, c'était le grand honneur. Alors, il y en avait un qui présentait au roi sa chemise, n'est-ce pas, en grande pompe. La chemise du roi, alors, bon, mettait sa chemise, la culotte du roi, n'est-ce pas, et puis le bonnet du roi, enfin, etc., les choses du roi, enfin, c'était, et puis alors ensuite on appelait au roi son petit déjeuner, etc. Chacun se disputait l'honneur, n'est-ce pas, d'avoir un rôle dans le lever du roi, enfin, grotesque, quoi. Alors, bon, au niveau des protestants, certains se laissent prendre à cette espèce de rivalité, n'est-ce pas? Par exemple, le seigneur de Coué, le marquis de Vérac, qui était un protestant, n'est-ce pas, acceptera d'abjurer en échange d'un brevet de lieutenant général de la province du Poitou. Alors, il se convertira au catholicisme pour cette raison-là. Il deviendra lieutenant intendant général du Poitou. Et d'ailleurs, tout en s'efforçant de ménager ses anciens coreligionnaires, il essaiera pendant un temps de les aider autant qu'il le pourra. Mais enfin, voilà, il abjure, n'est-ce pas? Il n'est pas le seul. De nombreux nobles vont abjurer pour des raisons semblables. Alors, il y a aussi des missions catholiques pour convertir les protestants. D'autant que, quand même, si vous voulez, l'édit de Nantes fait, dans le domaine de la tolérance religieuse de la France, un État unique en Europe. Car la France est quand même le seul État européen où il y ait le pluralisme religieux. Dans tous les autres États, on en est resté à la vieille devise qui avait marqué, la fin du XVIe siècle, cuius regio, cuius religio, la religion du prince est la religion de tous les sujets du prince, en quelque sorte. Et si quelqu'un n'accepte pas la religion du prince, eh bien, il va ailleurs. Il va dans un État qui est conforme à ses vues. En France, vu l'importance du protestantisme français, on est arrivé à cet État unique. Alors forcément, on n'aime jamais être un petit peu seul de son espèce, et la France considère que, ou plutôt les grands en France, tant les politiques que les gens du clergé, considèrent comme une honte pour la France, n'est-ce pas, d'avoir accepté ce statut humiliant, en quelque sorte, auprès des autres États français. Et alors, ce qui est extraordinaire, alors qu'il y a au XVIIe siècle un formidable prosélytisme catholique en direction des protestants, les protestants ne font plus le moindre prosélytisme en direction des catholiques. Par timidité, par peur, pour toutes sortes de raisons, peut-être par manque de conviction aussi. Il ne reste plus en dehors de ces joutes dont j'ai parlé tout à l'heure qu'une espèce de controverse polie avec le catholicisme. Et ceci va être extrêmement préjudiciable à la cause du protestantisme en France pendant toute cette période-là. Très rapidement, oui. Bon, on a vu ça. Alors, quand les temples sont démolis, une chose intéressante aussi de noter, c'est que certains pasteurs courageux, le dimanche suivant, vont prêcher sur les ruines de leur temple. Ils rassemblent leurs fidèles sur le temple et ils prêchent. Alors là, on les emprisonne. Tout simplement, on se passe, c'est un crime que de venir prêcher sur les ruines d'un temple détruit. Et alors, il y a un édit qui passe quand Louis XIV prend le pouvoir en 1662. Une des premières ordonnances qu'il publie, n'est-ce pas, c'est que dans les mariages et les baptêmes protestants, il est strictement interdit que l'assistance dépasse 12 personnes. Hein? Et les enterrements protestants sont interdits, sinon de nuit, aussi avec un nombre minimum de gens comme ça. Alors, les protestants sont contraints par les ordonnances de Louis XIV de célébrer les fêtes catholiques, de se découvrir au passage du Saint-Sacrement, comme on l'a vu tout à l'heure, et la majorité religieuse est fixée à 12 ans pour les filles, à 14 ans pour les garçons. D'autre part, les sages-femmes catholiques sont discrètement enseignées de d'ondoyer secrètement les enfants protestants dès qu'ils naissent, c'est-à-dire de les baptiser, puisque le laïc dans la religion catholique a la possibilité de baptiser quand l'enfant est en danger de mort. Là, il n'est pas en danger de mort, mais enfin, vu les circonstances exceptionnelles, les sages-femmes ont le droit, plus elles ont le devoir, d'ondoyer ainsi les enfants. Et c'est ainsi, par exemple, qu'un des grands capitaines de l'armée de Louis XIV, Turenne, c'est pas, qui est d'origine protestante, lui aussi il va finir par se convertir au catholicisme pour des raisons massement politiques. Ça lui profitera pas, puisque vous savez, il aura la tête emportée par un boulet, le malheureux, dans une bataille à laquelle il participera. Donc, si vous voulez, voilà petit à petit l'évolution des choses après la chute de La Rochelle. Tout simplement, tout gentiment, n'est-ce pas, on s'achemine vers la révocation de l'édit de Nantes, dans le plus grand aveuglement des protestants qui n'y voient rien du tout, qui ne se rendent absolument pas compte de l'orage qui est en train de s'accumuler sur leur tête. Ils sont dans un assoupissement total, assoupissement spirituel et assoupissement de bon sens, tout simplement, assoupissement dans tous les domaines, hein. Et la révocation des dites va les surprendre comme un coup de tonnerre dans un ciel bleu, alors que le ciel était loin d'être bleu depuis bien longtemps. Encore une fois, il voit dans ces choses-là des vexations mineures sur lesquelles il passe, hein, alors qu'il devrait réfléchir et réagir. Voilà, si vous voulez, ce qu'on peut dire pour cette période-là. Est-ce que vous avez des questions à poser rapidement ?